dans la longue liste d'ordonnances que Moïse prescrit au peuple d'Israël, se trouve un certain nombre de bénédictions et surtout une très grande série de malédictions. L'Éternel met sévèrement en garde son peuple contre l'abandon de sa loi. Je me dis, qu'en est-il de nous, aujourd'hui, qui dans notre culture occidentale avons totalement abandonné Dieu? Je continue la lecture du chapitre 28 du Deutéronome. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses, qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera avec le roi que vous vous aurez établi sur vous chez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auront connue. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura menés seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision. Vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront, jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a données. Versets 33 à 45. L'ulcère malin dont il est question est cette horrible maladie de l'éléphantiasis, aussi appelée lèpre égyptienne, qui se manifeste par un gonflement hideux des parties inférieures du corps. Elle peut être soignée, mais sera incurable pour les Israélites et s'étendra à tout le corps. Le pire de tous les fléaux sera la déchéance religieuse complète. L'ultime catastrophe pour un peuple qui a connu l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, est en effet d'adorer du bois et de la pierre. Toutes ces malédictions se sont littéralement accomplies. Pour ce qui est de l'exil, le royaume du Nord, composé de 10 tribus, fut déporté par les Assyriens et disparut. Le royaume du Sud fut emmené en captivité par les Babyloniens, mais beaucoup d'Israélites revinrent dans leur pays. Tout cela est décrit dans les livres historiques de l'Ancien Testament. Je continue le texte un peu plus loin avec une prophétie tout à fait extraordinaire concernant le dernier exil. « Vous serez asservis aux ennemis de l'Éternel » et qu'il enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Il lancera contre vous depuis les confins du monde une nation lointaine dont vous ne comprendrez pas la langue. Elle fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Versets 48 à 49. Trois éléments importants sont mentionnés dans ce passage, le fer, l'aigle et la langue parlée. Le prophète Daniel, prisonnier à Babylone, révèle au roi les empires qui lui succéderont. Voici comment il les décrit. « Après toi, surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. » Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. » Fin de citation. Cette quatrième puissance est l'Empire romain qui est associé au fer. L'aigle qui ordonnait tous les étendards était le symbole impérial. Il parlait latin, qui, étant une langue d'une structure linguistique totalement différente de l'hébreu, était totalement inconnue des Israélites. Je continue en compressant avec la description des afflictions que subirent les Juifs de la part des Romains, et en particulier la destruction de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants. Oui, vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère, sa femme qu'il aura serrée contre son cœur, et les enfants qui lui resteront encore, de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule en cachette le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes. Versets 52 à 57. L'historien juif Joseph raconte en détail toutes ces horreurs prophétisées ici par Moïse quelques 15 siècles avant qu'elles n'eurent lieu. Je continue plus loin et finis ce chapitre. Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plu à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'aurez connus, des dieux de bois et de pierre. Au milieu de ces nations mêmes, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera. Votre avenir sera très incertain. Vous connaîtrez nuit et jour la peur. Vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que le matin vous direz « Si seulement c'était le soir, et le soir, quand donc viendra le matin ?» L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux, alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais. Là, vous offrirez vous-même comme esclave à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. Versets 63-68. Suite à la destruction de Jérusalem, et toujours d'après l'historien Joseph, Titus envoya en Égypte 17 000 Juifs pour les employer à des travaux forcés. Il fit vendre aux enchères tous les jeunes gens de moins de 17 ans, ce qui se répéta sous le règne de l'empereur Adrien. Mais il y avait tant d'esclaves sur le marché que les cours ont chuté et personne n'en voulait plus. Ceci dit, cette prophétie a eu une portée bien plus étendue par le fait que d'abord tout l'Empire romain, puis plus tard le monde entier, devint pour les Juifs une terre de servitude où ils ne connurent que pogroms, chambres à gaz et persécutions. Cette suite prophétique de malédictions est tellement précise que bon nombre de théologiens, pour la majorité protestants, refusent d'accepter que Moïse en soit l'auteur. Comme ils ne croient pas en l'inspiration divine des Écritures, ils considèrent que les discours du Deutéronome furent rédigés beaucoup plus tard, après que les événements eurent lieu. Et c'est ainsi que se conclut la loi par des sanctions, comme c'était habituellement le cas dans les traités d'alliance de l'époque au Moyen-Orient. Les prophètes de l'Ancien Testament reprendront toutes ces malédictions pour en annoncer l'accomplissement par suite des infidélités d'Israël. Malgré cela, les bénédictions réapparaîtront sous forme de promesses de salut à la fin des temps et seront promulguées par ces mêmes prophètes. Ceci nous conduit au chapitre 29 qui rapporte les paroles de la cérémonie du renouvellement de l'Alliance. Les éléments principaux en sont un rappel historique de l'œuvre de l'Éternel en faveur de son peuple, l'engagement des deux parties, suivi d'une exhortation à la loyauté exclusive envers l'Éternel, et finalement l'énoncé des sanctions qui seront infligées en cas de non-respect de l'Alliance. Je commence la lecture. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit « Vous avez constaté de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Vous avez vu quelles grandes épreuves il leur a infligées. Vous avez été témoin des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. » Verset 1 à 2. Hormis Moïse, Caleb et Josué, tous les Israélites avaient entre 40 et 60 ans. La majorité du peuple n'avait pas personnellement vécu ces événements. Cependant, les différentes générations sont considérées comme une seule nation, liée par des liens de solidarité et héritière d'une même histoire. Je continue le texte. « Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. Pendant 40 ans, moi, l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. » Versets 3 et 4. Imaginez qu'après avoir porté le même vêtement et la même paire de chaussures depuis l'âge de 20 à, disons, 50 ans, il soit toujours flambant neuf. C'était l'expérience de la plupart des Hébreux. L'Éternel avait pourvu à tous leurs besoins en suspendant l'ordre naturel des choses. Les Israélites avaient vécu des prodiges pendant 40 ans, et les contemporains de Jésus en avaient vu des milliers. Mais les miracles n'engendrent pas la foi et l'obéissance, parce que le cœur de l'homme est désespérément mauvais et méchant. J'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie si je veux être en mesure de comprendre ses voix, de réellement voir et de véritablement entendre comme lui le désire. L'Écriture dans son ensemble montre que, à cause du péché, l'histoire d'Israël est un échec humain face aux exigences de la loi. L'Écriture m'enseigne que le salut ne peut pas venir des capacités humaines, mais qu'il est l'œuvre exclusif du Créateur. L'Ancien Traité était caractérisé par l'obéissance à la loi de Moïse. La Nouvelle Alliance en Jésus-Christ est une nouvelle naissance, une opération divine à cœur ouvert. Malheureusement, l'aveuglement des Juifs continue aujourd'hui encore selon les paroles de l'apôtre Paul que je cite. « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Et il en est ainsi jusqu'à ce jour. » Fin de citation. Je continue le texte un peu plus loin tout en compressant. « Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, chefs de tribus, responsables, officiers et tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et les étrangers. Vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, veut conclure aujourd'hui avec vous, avec imprécation, afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu. » Versets 10 à 13. L'alliance est conclue avec le seul peuple d'Israël. Cependant, les étrangers qui ont choisi de demeurer avec eux y sont automatiquement inclus. Je continue plus loin. « Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de pavots qui produisent du poison et de l'absinthe. » Verset 18. Le pavot est une graine étourdissante dont on tire l'opium. L'absinthe est une plante odoriférante et particulièrement amère dont on faisait une liqueur, mais qui est interdite à cause de sa toxicité. Ces images sont données pour illustrer le délire moral et les malheurs sociaux qui accompagnent l'idolâtrie. Je continue plus loin tout en compressant. Lorsque la génération à venir, celle de vos fils qui vous suivront et les étrangers venus de pays lointains verront les fléaux et les catastrophes que l'Éternel aura infligées à ce pays, lorsqu'ils constateront que tout est ravagé par le soufre, le sel et le feu, que que la terre est inculte et improductive au point qu'aucune herbe n'y pousse, qu'elle est ruinée, comme ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère ardente, tous ces peuples se demanderont « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? Quelle était la cause de cette grande et ardente colère ?» Alors on répondra « Cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, avait conclue avec eux après les avoir fait sortir d'Égypte. Ils se sont mis à rendre un culte à d'autres divinités. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre. Dans sa colère, sa fureur et son indignation, il a déraciné ce peuple de son pays et l'a chassé dans un pays étranger où il vit encore aujourd'hui. » Versets 22 à 28. Ce texte nous donne un tableau sinistre de la dévastation de la Palestine. C'est ainsi que le pays où devait couler le lait et le miel est devenu un véritable désert. Le jugement de l'Éternel est non seulement tombé sur le peuple, mais aussi sur leur héritage. Je finis ce chapitre. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Verset 29. Cette maxime met en évidence à la fois les limites de la connaissance de l'homme et sa responsabilité devant l'Éternel. Le rejet du peuple qui fut pourtant choisi de Dieu, la dévastation de son pays et en général les décrets divins sont des profonds mystères. Ce qui importe n'est pourtant pas d'être initié à ces secrets divins. L'être humain ignore bien des choses et n'a pas la réponse à toutes ces questions. Mais la lumière, la révélation que Dieu lui donne, est suffisante pour qu'il puisse lui obéir. En conséquence, il est redevable de son comportement devant son Créateur. En demeurant fidèle à l'Éternel, chaque Israélite pourra demeurer de manière irréprochable dans l'Alliance et jouir de sa bénédiction. Nous voici arrivés au chapitre 30 qui est rafraîchissant par rapport au précédent, car il y est question d'une alliance inconditionnelle qu'on a coutume d'appeler l'Alliance palestinienne. Je commence à lire. « Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions, entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous les prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersé, si vous revenez à l'Éternel votre Dieu et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors, l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersé. » Versets 1 à 3. L'Éternel fait ici de très grandes promesses qui se réaliseront quoi qu'il arrive. La condamnation d'Israël n'est pas le dernier mot de l'Éternel envers son peuple. Au-delà du jugement, il lui manifestera sa grâce, car il ne renonce pas à son projet de vie et de bonheur pour lui. Le pardon et la restauration sont toujours possibles si Israël reconnaît ses torts et se tourne vers son Dieu. Cette promesse a soutenu la foi de générations entières de Juifs au travers des persécutions les plus horribles. Je continue. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé. Et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. Versets 4 à 5. Par pure grâce, l'Éternel ramènera éventuellement en Palestine tous ceux qui resteront d'Israël éparpillés de par le monde. Dans le pays de leurs ancêtres, ils y retrouveront la prospérité. Cette prophétie sera accomplie par le Messie lors de son retour en gloire. En attendant, les Israélites sont dotés d'un potentiel de survie extraordinaire. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, quelques 50 000 Juifs revinrent de l'exil babylonien. Ils furent constamment assaillis par leurs voisins et durent faire face à une guerre dévastatrice contre les Grecs. Malgré cela, au temps du Christ, la Palestine était extrêmement peuplée. Au dire de l'historien juif Joseph, la Galilée, à elle seule, comptait alors 240 bourgades de 1500 habitants ou plus. Or, la Galilée était la plus petite des provinces, plus petite que la Judée, elle aussi peuplée de Juifs et comprenant la grande ville de Jérusalem. Le pardon et la restauration sont toujours possibles si Israël reconnaît ses torts et se tourne vers son Dieu. Et cette parole de réconfort est aussi valable pour moi et pour vous. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.